Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
C'est la fin de l'année, c'est la roue libre pour cette année 2023. On est dans la dernière émission normalement de cette nouvelle année, de cette troisième saison de Ça déraille avec ce dernier top 10, le dernier top 10 de l'année. On a fait les grosses armadas, on a fait les signatures improbables et maintenant on entre vraiment dans ce qui nous plaît peut-être le plus avec Jérémy et Rémi qui sont autour de la table. Du coup, ils sont passés à côté de quelque chose parce que oui, il y a des coureurs, ils ne sont pas passés loin d'avoir une victoire prestigieuse, d'un succès qui aurait changé le cours d'une carrière. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et c'est pour ça qu'on va faire donc ce petit top 10 aujourd'hui.
Avec... C'est mon préféré. De tout l'hiver, c'est mon préféré.
Ah, de tout l'hiver, c'est mon préféré. De quoi se mettre bien au chaud? Un petit chocolat, on boit un petit peu.
Oui, bah, si tu veux, il y a un calendrier de l'avant.
Évidemment. Eh bien, si tu n'allais pas nous le montrer, Jérémy.
Ah, je vais le montrer. Merci. Bah, on l'a teasé tout l'hiver, il faut le voir. Il faut le voir.
Va nous montrer. Alors qu'on a changé aussi un petit peu le décor.
Bien sûr, c'est important.
Tony Duval, le meilleur top 10 avec la meilleure équipe.
Avec la meilleure
équipe. Ça paraît tout à fait logique. Alors oui, qu'est-ce qu'on a?
Il faut savoir que ce calendrier, c'est un classique.
C'est quoi?
le classique Haribo.
Ouais, mais attends.
Voilà. Et attention.
Alors, c'est des chocolats parce que t'étais plus team chocolat.
Par contre,
moi, je mange de tout, mais
la personne
là,
est sage.
Des bonbons.
Elle l'a pas encore.
C'est vrai qu'elle a pas encore ouvert. Ça, c'est bizarre, ça, quand même.
La personne a du retard.
Alors qu'on est le. Wow. Ouais, j'ai pas envie de. On est le bip décembre, hein, quand même. Donc, voilà donc comment ce calendrier d'avant qu'on vous a teasé tout l'hiver et qui est enfin présent. Alors, si vous ne comprenez rien, c'est normal. Allez écouter les deux autres top 10 précédents.
Ah, si vous écoutez celui-là avant, vous comprendrez
et
rien.
Tout ça.
Et puis, n'oubliez pas d'écouter aussi les mercredis soirs les podcasts cyclocross parce que là, en pleine semaine sainte, on va se régaler. Ouais, D-Game, Hulk et compagnie. C'est incroyable.
Beaucoup de monde qui écoute. Ça fait
plaisir. Il y a de plus en plus de monde.
Mais d'ailleurs, la semaine où ça a été annulé, les gens étaient très tristes.
Très tristes.
Alors, c'était il y a longtemps, donc je ne me rappelle pas.
toujours des petites questions pour commencer, pour faire votre top 10, les gars. Qu'est-ce que vous avez préféré? Est-ce que c'est un coureur totalement surprise, un Oliver Zog qui a failli remporter du coup une grande surprise, un grand succès et une grande course et qui finalement s'est loupé pour pas grand chose, ou là c'était une grande surprise, ou est-ce que c'est plutôt un coureur, une star qui a failli remporter une grande course?
Moi c'est plutôt un coureur qui est passé à côté de quelque chose d'immense qui aurait modifier le cours de sa carrière, okay. Soit en termes d'émotion, soit en termes de palmarès.
Ouais, donc c'est bousculé. On n'aurait pas parlé du coureur de la même manière avec.
Exactement. Okay. Il aurait changé de catégorie.
Très bien. Rémi, toi, c'est quoi? C'est des.
C'est un petit peu les deux aussi. C'est vraiment un petit peu les deux. C'est quelque chose qui aurait complètement changé la gueule du palmarès du mec en question.
Oui, quelques surprises, mais j'avoue qu'il n'y a pas vraiment de mec.
Il n'y a pas de lambda. Moi, dans mon classement, il n'y a pas de mec lambda. On est vraiment sur des mecs reconnus. qui, pour certains, ont un gros palmarès, mais qui a ce truc en moins qui remet pas en cause leur talent ou leur classement dans les annales, mais qui les aurait fait un petit peu step up encore plus.
Autre question aussi, est-ce que vous avez pris des coureurs qui se sont loupés à plusieurs reprises, même si s'il y a eu un moment fort en haut de la pyramide où il aurait pu bousculer bien sûr son palmarès, son histoire, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a fait un one shot, il aurait pu gagner ça mais après c'est terminé, il n'a jamais réussi à se hisser à ce même niveau, parce que moi
surtout des one shot, moi
je vais vous le dire, moi j'ai des coureurs qui se sont essayés plusieurs fois puis se sont un petit peu loupés, mais ça reste dans la même course, on va dire, enfin, le même environnement.
Il y a un peu les deux. Okay. J'ai un peu les deux.
Et autre chose aussi, troisième question, c'est est-ce que pour vous le fait de ne pas avoir terminé sa carrière, ça change aussi votre classement? Par exemple, moi, j'ai des coureurs qui sont encore en activité, qui peuvent, pourquoi pas, même si ce serait une surprise aujourd'hui, eh bien, changer le cours de l'histoire de sa carrière. Est-ce que, par hasard, est-ce que ça vous avait fait
changer? Alors, je comprends ta question et que ça puisse éventuellement influencer le classement, mais au vu de mon top 10, j'ai pas forcément le cas de figure, sauf peut-être pour un. Mais pour les autres, ça ne s'est pas posé.
Par exemple, je donne, c'est dans les mentions, parce qu'on donne des mentions un petit peu plus tard. Christopher Froome, le 5e Tour de France, il est toujours en activité, mais bon, je ne l'ai pas mis dans le top 10. Tu l'as mis, Rémi, toi?
Non,
ton top 10,
voilà. Bon, bref, absolument pas mis.
Pourquoi pas, là, bon, ça m'étonnerait, à part grosse surprise que.
Ah oui, d'accord, ok. Pour le 5e, ok. Ouais, ouais.
Bref. Oui, parce qu'il a fait un podium en plus du Tour de France. C'était dans une mention, j'ai regardé un peu.
Froome, on l'a eu en début de saison, il a dit bah, peut-être un jour je le ferai. Hein, il a dit.
Oui, mais peut-être. C'est surtout le peut-être qui m'embête. Et son niveau, malheureusement, actuellement, même si on l'adore, il fait partie de la famille de Sadérail. On commence avec la 10e place, 10e position. J'aime.
Romain Bardet sur le Giro 2022.
Julien Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège 2020.
Très bien. Et moi, c'est Mark Cavendish sur. À choisir, soit le Tour de France 2021, soit le Tour de France 2023. Voilà donc pour quelqu'un qui est passé à côté de, pour l'instant, de quelque chose. C'est pour ça qu'il est seulement un dixième pour moi, Mark Cavendish. Jérémy, donc Romain Bardet, Giro 2022, c'est encore un petit peu douloureux pour nos amis les Français, mais c'est bien là dans ton classement.
Oui, c'est principalement dû au fait que lorsque l'on regarde le podium final avec la victoire de Jay Hindley devant Richard Carapaz, on se dit que cette année-là, il y avait la place. Romain Bardet avait le niveau, en tout cas sur la seule arrivée au sommet à laquelle il a pu participer. Il faisait partie du groupe de favoris.
Par Hindley, mais pour mais quelques centimètres.
Pas grand-chose, en tout cas, on sentait qu'il était bien. Donc, il a dû se retirer, malheureusement, pour raison médicale, non pas pour une chute, pour une erreur technique ou parce qu'il était complètement aux fraises. C'est de là que naît cette frustration, parce qu'aujourd'hui, si tu rajoutes le Giro au palmarès de Romain Bardet, ça devient un tout autre coureur. Ouais. Ça le fait basculer dans une autre catégorie. Et puis pour le cyclisme français, ça nous aurait fait du bien, parce que pas de victoire sur des courses par étapes depuis 2007, pas de victoire sur un grand tour depuis 1995, ouais. Et Laurent Jalabert, ça commence un petit peu à dater. Là, on a vraiment la sensation, sans dire qu'il aurait battu Hindley, parce qu'on n'en sait rien et on peut débattre tant qu'on veut de ça, on ne sait pas si Romain Bardet aurait gagné, aurait fait 3, aurait fait 5, aurait fait 10, on ne peut pas le présumer. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait un spot avec l'absence de tous les Avengers. Il n'y avait pas Vingegaard, il n'y avait pas Pogacar, il n'y avait pas Evenepoel, il n'y avait pas Roglic. Et cette année-là, il avait des bonnes jambes. Oui. Malheureusement, on ne saura jamais, mais les regrets sont immenses pour moi.
Qu'il gagne les Tours des Alpes, hein, juste avant, qui est toujours. Alors, bah, c'est souvent, c'est de la
malchance. Le tour maudit. Ouais, c'est un peu celui qui gagne la Marseillaise. Derrière, il ne fait rien de la saison.
Voilà donc, et en plus, ça aurait peut-être lancé le débat sur Bardet-Pinot qui a fait la meilleure carrière, même si Bardet, ce n'est pas terminé. On attend encore de belles choses pour lui. En tout cas, en cet hiver 2023, puisque vous pouvez écouter cet épisode bien plus tard, et là, ça se trouve, c'est terminé pour lui.
C'est sûr qu'il voulait écouter en 3 ans.
Hein. Mais non, ça se mange comme du chocolat, comme chocolat dans le calendrier de l'Avent, ça se mange sans fin. Julien Alaphilippe, Liège-Bastogne-Liège, parce que toi tu donnes une année, mais oui. Je t'en donne plusieurs moi s'il faut, hein, parce que j'ai en 9e position.
Il y en a plein évidemment. Moi j'ai fixé 2020 parce qu'il y a absolument tout. C'est le meilleur coureur du monde sur les courses d'un jour. À ce moment-là, on sort d'un Tour de France où il a gagné une étape. L'année d'avant, il finit 5e, il a le maillot jaune. Il a gagné Milan-San Remo en 2019. Il est au-dessus de Van Aert et Van Der Poel sur les courses d'un jour. Et Liège-Bastogne-Liège, c'est la course qui lui correspond le mieux. C'est celle qu'il doit gagner. Et t'arrives avec alors un groupe qui est monstrueux, hein, ce quintet avec Pogacar, Roglic, lui,
Hirschi, Mohoric.
Hirschi et Mohoric. C'est difficilement mieux. T'as le maillot de champion du monde, parce qu'il vient de gagner le titre à Imola.
Et t'es considéré comme le meilleur sprinter de ce groupe, ou quasiment
largement.
Le meilleur.
Largement. Ouais. Donc là, c'est cette année ou jamais. Enfin, c'est pas cette année ou jamais, mais là, tu peux pas être dans de meilleures conditions pour le faire, avec en plus toute l'attente qu'il y a derrière toi. Et puis, il foire ce sprint complètement, parce qu'il est battu par Pogacar en 2021, mais là, c'est complètement à la régulière. Là, il foire complètement son sprint. Ouais. Il lève les bras, il est irrégulier, il est déclassé, il lève les bras avant, et Roglic le passe sur la ligne. Enfin. Il y a tout qui est dedans, c'est risible au possible. Et depuis, il ne l'a toujours pas.
Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les ensembles
de Bastogne. Et en plus, ce sera pas sa priorité cette année, puisqu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il se concentrerait sur le ronde.
Ouais, mais on voit que déjà, c'est un peu plus compliqué quand il faut lutter contre les meilleurs punchers, comme les Remco, notamment. Voilà donc pour Julien Alaphilippe. Moi, en plus, deuxième, donc dès sa première participation en 2015, on s'est dit qu'il va le gagner un jour. 2018, c'est son pote Jungles qui se barre. Il ne peut rien faire, mais il était encore très fort.
Il
fait quatrième.
L'un des plus forts.
Ouais. Et puis 2020, sprint dégueu, on l'a dit. 2021, battu par Pogacar, alors que là, il avait l'air d'avoir pris l'ascendant dans les côtes précédentes, mais voilà.
2022, il tombe, 2023...
Il n'est pas dans...
Quand il y a
Remco, de toute façon, c'est réglé. Hein.
Voilà pourquoi aussi Julien Philippe est là, mais pas aussi haut, parce que il peut toujours le gagner, voilà, on ne sait jamais, tout peut se passer dans la vie. Et on espère aussi que cela aussi peut s'arranger pour Marc Cavendish, moi qui est dixième. Donc on le rappelle, 34 victoires sur le Tour de France comme un certain Eddy Merckx. En fait, on a l'impression qu'il va un petit peu s'arrêter là. Et je crois, même s'il fait encore un Tour de France en 2024, il est censé le faire, hein, attention, parce qu'il peut passer beaucoup de choses.
En tout cas, il a prolongé pour ça. Ouais. Astana a fait le recrutement uniquement dans cette optique.
Ouais. Mais
Astana, tu leur dis, vous ne gagnez pas une course de l'année, sauf une étape pour Cavendish sur le Tour ici.
Oui, je pense. Donc,
parce que tout le market qui va être fait derrière,
c'est avec Astana qui l'aura.
Forcément, ça va marquer les esprits.
Et non, tout ça pour dire qu'en 2021, donc, il atteint les 34 victoires pendant ce Tour de France où il est monstrueux, où il gagne quasiment tous les sprints. Les Champs-Élysées, il arrive, il fait partie des grands favoris, voire le grand favori. Il se fait battre par Van Aert, donc il est seulement troisième. On se dit, c'est pas grave, il aura encore le temps. 2022, le fébreux. Froideur extrême qui dit non, on met Jakobsen, toi tu vas faire le Giro. Et puis en 2023, donc pas très bien toute l'année, mais il revient très bien sur le Tour de France. À Bordeaux, il est tout près de battre Philipsen, mais il y a un petit problème mécanique sur la fin, c'est ce qu'il a dit en tout cas.
Ouais.
Il fait deuxième et on aurait pensé qu'il aurait pu se battre dans les prochaines courses, mais finalement, chute, c'est quand même compliqué pour Cavendish qui peut. Il n'est que dixième parce que s'il passe vraiment à côté de cette 35e victoire, ça peut pour moi être...
Il peut remonter peut-être. Effectivement, il sera passé à côté de quelque chose de grand. Après, il ne faut pas oublier quelque chose quand même dans cette histoire. C'est qu'on se focalise sur 35, le record. Mais le record, il l'a déjà. Il l'a déjà. Donc, est-ce qu'il passerait à côté? Finalement, ça changerait quoi? Juste, tu effacerais une ligne au palmarès de Merckx et il serait tout seul, il l'aimerait bien. Mais ça, c'est l'ego du sprinter qui parle. Mais le record aujourd'hui, il l'a.
Oui, ça c'est clair.
Tu vois,
mais il y a déjà d'ailleurs un mec qui a aussi un record qui aurait pu passer ce record qui est dans mon top 10. Moi, je vous laisse réfléchir, vous qui nous écoutez, et j'en parlerai tout à l'heure. 9e position, Jérémy.
Moi, c'est Sylvain Dillier pour son Paris-Roubaix 2018.
Sylvain Dillier, ah oui, Paris-Roubaix 2018. 18, t'es dit ? Je crois que c'était plus vieux que ça, mais c'est, je suis bête.
Non, c'est pas si vieux.
Ouais.
Romain Bardet, Giro 2022.
Ok, donc c'est dedans. Et moi, la Philippe Liège-Bastogne-Liège. Donc, rajouter quelque chose sur Romain
Absolument
Bardet ?
Absolument pas.
Ouais, voilà. Donc, on a fait le tour, sauf pour Sylvain Dillier, qui, je me rappelle, s'est battu avec Sagan.
Alors, il faut rappeler quand même les conditions particulières et la physionomie de cette course. Sylvain Dillier faisait partie de l'échappée. Et il a quand même été capable d'accompagner jusqu'au bout Peter Sagan. Alors, y a-t-il des regrets ? En soi, Sylvain Dillier au sprint face à Peter Sagan, tu sais qu'il va perdre. Tu sais. À la fin de la carrière de Sylvain Dillier, sur le moment, il se dit deuxième de Paris-Roubaix, c'est génial pour sa valeur marchande, c'est incroyable, c'est un souvenir génial, il va monter sur le podium. Je pense qu'il devait être assez fier d'avoir accompagné Sagan et que physiquement, il n'avait pas les moyens de faire autre chose. Mais à la fin de la carrière, est-ce qu'il ne va pas se poser 5 minutes et se dire ah là, je suis peut-être passé à côté de quelque chose quand même. Est-ce que j'aurais pas dû en garder un peu sous la pédale? Est-ce que j'aurais pas dû essayer de le titiller, de l'attaquer, de le mettre un peu dans le doute, plutôt que de l'amener finalement sur un plateau et de considérer que bon, bah au pire, je ferai deux et c'est déjà génial. Sur le moment, évidemment que tu as envie de faire deux, que tu vas passer tes relais et que tu vas te dire allez, on la joue à la gentleman, on sait jamais, hein, panne de jambes, ça peut arriver. Ayman a bien battu Bonnel. Mais je pense qu'à la fin de sa carrière, il pourra nourrir ce petit regret parce que
on va pas se le cacher, il regagnera plus, hein, surtout que maintenant il y a les monstres. Je pense que c'est quelque chose qui va lui rester en travers de la gorge, même si c'est la logique qui a parlé, et sur un sprint tu pouvais pas battre ce Sagan.
D'ailleurs, en parlant de Sagan, parce qu'il était dans mes mentions, mais on peut en parler maintenant, sur Milan-San Remo par exemple, parce que là aussi, comme Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège, je notais plus Alaphilippe parce qu'il y a ce côté déjà français, et dramaturgie pour 2020 et tout, mais Sagan, je crois qu'il fait 3 podiums de MSR, il se fait taper par Kiatko et puis par Siolek de mémoire.
Ouais, vraiment, à chaque fois, on
s'est dit, bah, il va la gagner au bout d'un moment. Attends, c'est pile son terrain de jeu, c'est le mec qui passe bien les boss et qui va vite au sprint. Lui aussi, il aurait pu y passer. En tout cas, il ne le gagnera jamais.
Jamais, c'est fini.
Il n'y en aura plus, normalement. Donc, pour cette 9e place, qui a été assez rapide, vu qu'on s'est entremêlé entre nous, on va passer à la 8e position. Jérémy, 8e.
8e position, alors c'est plus de l'affect, là. Que vraiment une ligne à palmarès, c'est Christophe Mangin à Nancy sur le Tour 2005.
Ouais. Oui. J'adore Saint-Vosgien. Rémi.
Valverde, le triplé ardennais 2015.
Que j'avais dans mes mentions que j'ai pas mis.
La deuxième place à l'Amstel 2015, on va dire.
C'est vrai que j'avais dans mes mentions.
Messieurs, alors je suis en train de voir ton top 10.
Ouais.
J'ai pas su de Rémi, mais j'ai l'impression qu'on a oublié, sauf si Rémi nous sauve, mais qu'on a oublié un truc incroyable.
Eh ben, on le mettra en zéro.
On le mettra en zéro.
Ou un bis.
Mais je compte sur Rémi pour nous sauver parce qu'il est pas dans le tien.
Et peut-être dans mes mentions, non ?
Bah, il peut pas être dans tes mentions, c'est juste c'est un oubli. Et tu m'y as fait penser en parlant de Sagan à San Remo.
Ok, très bien. Du coup,
je n'ai aucune idée de ce que tu parles, donc je pense que je.
Aïe, on mettra à la fin. C'est un petit bonus.
On mettra à la fin.
Thomas Vauclair, Tour de France 2011.
Ah oui.
Ça fait partie.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, je l'aurais plus. Enfin, moi, je l'ai plus dans le côté mention.
Oui.
Parce que j'ai des explications, enfin, qui moi me.
C'est juste que
qui est pas top 10, mais je
comprends. Quand je me suis remis dedans, replongé dedans, parce que oui, je me suis replongé dedans. Je me dis, ah, quand même. Bon, bref. Jérémy, on commence avec Christophe Mangin, arrivé à Nancy en 2005, ça, non ?
2005, les plus jeunes d'entre nous devront aller chercher les archives, et pour ceux de notre génération et les plus anciens,
appeler Marc Madiot.
Alors, appeler Marc Madiot, ils vont un contrat, et puis ça a permis de mettre en lumière Lorenzo Bernucci, qui à l'époque était un
qui
inconnu.
Qui est dans un top 10, je crois, non ?
Il n'était pas encore dopé. Qui est dans un top 10 des grandes surprises.
Je pense que dans les surprises, on l'a mis. Ouais.
Voilà, il est devant, il est échappé depuis belle lurette, il pleut des trombes d'eau, arrivé à Nancy, et puis il y a un dernier virage sur la droite qui est très glissant, puisque derrière tout le monde va s'empaler également sur lui. Et malheureusement, il part à la faute, il finit dans les balustrades, et cette victoire d'étape qu'il aurait mérité lui échappe. Alors, c'est un scénario qu'on voit tous les ans, presque sur tous les grands tours, une échappée qui se fait reprendre à quelques hectomètres. Mais là, il y a des conditions particulières. Il y a le déluge, il y a le fait que ce soit un Français qui soit en solitaire, qui tombe, alors que potentiellement, il avait, pourquoi pas, la victoire dans les jambes. Et puis, il y a ses caméras embarquées dans la voiture de Marc Madiot qui l'encourage jusqu'au bout. Et voilà, c'était un crève-cœur qui a marqué mon enfance. Mais j'avais 14 ans, donc j'étais encore un peu novice dans le cyclisme. Et qui m'est resté en mémoire. Donc peut-être, c'est pas la plus grosse victoire qui manque à son palmarès. On peut trouver 15, 20, 30 exemples de coureurs qui sont passés à côté de quelque chose de plus grand.
Mais c'est, ce qui
mais c'est l'émotion.
Et moi, je l'ai pas mis dans les mentions là, mais je l'ai noté dans un coin de ma tête. C'est juste que pourquoi je l'ai pas mis, parce qu'il a gagné une autre étape du Tour de France.
J'ai été voir
parce que j'ai cherché quand même, parce que Mangin, moi aussi, c'est vraiment les premières choses qui me sont venues. Je dis, ah franchement, s'il avait pas gagné, je pense que moi, j'aurais mis dans les top 10.
Mais gagné dans ses conditions,
ouais,
en solitaire, tu vois, il y avait vraiment.
Et en plus à côté de chez lui parce qu'il est vosgien.
Exactement, voilà. il y avait un esprit ce jour-là qui malheureusement a fait que, mais il était parti pour un exploit sensationnel.
Alors Rémi, c'est Valverde avec ce presque triplé ardennais. Alors il faut savoir que il est passé à côté quelque chose, mais il ne l'a pas su avant la dernière course.
Voilà, c'est pour ça que je le remets. Il faut le remettre en perspective, parce que le triptyque ardennais, on commence par l'Amstel. Donc. Ouais. Quand il fait deux, ok. Ouais, je suis passé à côté. J'aurais pas le triplé, mais surtout, je pense qu'il doit se dire que.
Comme un tennisman qui fait Roland Garros, Wimbledon et US Open. Quoi. Il est pas passé loin, mais il savait d'entrée que c'était plié.
Voilà. Tout à fait.
Exactement.
Le gars, il a la culture.
Impeccable.
On est bon là. Là, on est bon.
Surtout, en fait, ce qui fait gagner des points dans notre côté, c'est que Valverde n'a jamais gagné l'Amstel. Ouais. Alors que on parle d'un des meilleurs coureurs des Ardennaises. Ouais. Il a le record sur la flèche. Sur Liège, il est co-recordman, je crois.
Il est à 4.
Je vais regarder.
Il a gagné.
Il est à 4, bien sûr, sur Liège. Et il y a Moreno Argentine aussi qui est à 4. Okay. Eddy Merckx est à 5.
Ah, bon, bah.
Voilà. Bon, Eddy Merckx, souvent,
quand tu sais pas, tu dis Eddy Merckx.
Bon, 4 Liège, la flèche, c'est le recordman. C'est fou de se dire qu'il a jamais gagné l'Amstel. Et 2015. Plus encore que 2013 où il finit deuxième et Kreuziger gagne en solitaire, c'est que là tu perds au sprint face à Kwiatkowski, ouais. Toujours.
Hein, Kreuziger d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez, il a terminé sa carrière chez
Kwiatkowski.
Et Kwiatkowski, il a commencé chez Carraroa.
allez, écoutez le top 10 précédent.
Ensuite, oui.
Et t'es battu au sprint par plus fort, parce que sur le sprint, il n'y a pas grand chose à faire. Mais rétrospectivement, c'est la fois où il est passé le plus proche de la victoire. Et derrière, bah, vu qu'il gagne la flèche et Liège, bah, il n'est pas loin d'un triplé, ce que n'ont fait bah, finalement que Rebellin et. Et Gilbert, il aurait pu être.
Et Vollering. Et Van der Breggen.
Et Eddy Merckx. Non,
il faut briller. C'est pour briller en société.
Je comprends.
Luciole, je sais.
Je pense qu'il est 11e. Au départ, il était 10e. Et après, j'ai mis Cavendish parce que ce côté-là, en mode, il savait déjà que c'était raté. Mais à mon avis, après coup, il dit. Battu par Kwiatkowski, quoi. Donc, Vauclair Tour de France 2011, je suppose que la plupart des gens se rappellent de cette histoire. Donc, plus que Alaphilippe en 2009, par exemple, où là aussi Alaphilippe a eu beaucoup le maillot jaune pendant toute une épreuve et il finit cinquième. Mais là, Vauclair, pour moi, on ne se rend pas compte à quel point il a failli peut-être pas le remporter le Tour de France, mais aller sur le podium du Tour.
Ah ouais, le podium, c'était accessible.
Ouais, le podium, c'était accessible parce qu'en fait, bon, on sait, il a le maillot jaune, il a 3 minutes d'avance, il tient jusqu'au bout, il est même avec les meilleurs en montagne jusqu'à la 18e étape. Donc, on est jusqu'au bout, il a le maillot jaune, hein, on sort de la 18e étape. Et puis après, il saute sur tout ce qui bouge dans l'étape de l'Alpe d'Huez, hein, tout le monde veut lui faire la peau. Et déjà,
le vrai problème, il est même pas dans l'Alpe d'Huez, il est télégraphe, valet du Galibier, parce qu'il essaie de suivre l'attaque de Contador, qui lui est déjà dans une autre dimension, il est dans l'attaque de la dernière chance, parce qu'il est déjà distancé. Et là, il manque de lucidité, parce qu'il se retrouve intercalé entre Contador, Schleck et Evans. Et là, c'est le problème qui se pose, c'est qu'il n'a pas l'habitude de gérer ce type situation, qu'il n'a pas l'équipe non plus pour ça. Et le regret, il est là. Mais il n'est même pas dans l'Alpe d'Huez. Dans l'Alpe d'Huez, il fait ce qu'il peut, mais il perd le tour dans le Galibier.
Oui, et avec Pierre Roland qui n'était pas là et qui aurait pu l'aider. Enfin bref, pas mal de choses, même s'il a le banc de sortie, évidemment, Pierre Roland. Mais bon, bref, c'est dommage parce que là, ici, je pense qu'il aurait perdu du temps. Mais il faut se rendre compte qu'après, quand même, le mec, donc il rétrograde. Sur le chrono final, avant les champs, il fait 12e du chrono, quand même, Vauclair. Donc,
ce qui est énorme. Hein.
Devant les Schleck. Bon, à 2 minutes quand même d'Evans, hein, Stanley. C'est pour ça que je ne dis pas victoire, parce que je pense qu'Evans aurait quand même récupéré ses quelques minutes.
C'est Evans qui gagne le chrono ? Ou c'est Martin ?
Non, ce n'est pas Evans, mais bon, il avait.
Je crois que c'est Martin. Mais Evans fait un gros chrono.
Ouais, mais il prend deux minutes sur Evans, mais je pense qu'il n'aurait pas su résister Evans. Mais par contre, une deuxième, troisième place. Ça aurait été largement possible. Il est qu'à une minute du podium, finalement. Donc, voilà. Thomas Vauclair,
Le
podium du Tour de France de 2011. Pour moi, il est passé à côté de quelque chose. Et bien sûr, il n'aura pas eu le temps de récidiver. C'est l'année ou jamais. Voilà pourquoi je l'ai mis 8e seulement, parce que c'est que podium. Je pense qu'il n'aurait pas gagné. Sinon, si c'était victoire, je pense qu'il aurait été plus haut.
Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que à aucun... Enfin, tu vois, moins qu'Alaphilippe en 2019, j'ai vraiment pas eu cette impression.
Mais tu te rends pas compte qu'il finit avec tous les meilleurs grimpeurs à chaque fois.
Je sais,
c'est pas possible avec les Evans, les Schleck jusqu'au Galibier où là ça part un petit peu en.
En fait, à partir du moment où Andy Schleck fait son numéro au Galibier, moi dans ma tête c'est terminé. Alors en plus le supporter de Andy Schleck que j'étais se disait peut-être qu'il gagnera enfin le tour parce qu'à l'époque Contador n'est pas déclassé de 2010, mais Je me dis c'est terminé parce que si c'est pas Schleck, si c'est pas Andy, c'est Franck, si c'est pas l'un des Schleck, c'est Evans. Et c'est vrai que j'ai l'impression rétrospectivement d'avoir moins vibré, d'y avoir moins cru qu'à la Philippe, alors qu'il va tout aussi loin en fait.
À 3 jours, il est quand même encore maillot jaune, même s'il est quand même
sur
un Schleck, mais après avec le chrono, s'il fait. Enfin bref.
On va pas refaire l'histoire, mais je comprends tes arguments.
Voilà. Donc pour cette 8e position. Et on va enchaîner avec la 7e place. Septième place pour Jérémy, du coup.
David Moncoutier. Alors, sur le Tour de France globalement, mais surtout 2002.
Ah oui, d'accord. Je vois très bien où tu veux en venir.
Non, moi, je vois
hashtag
pas.
Seringue, hashtag seringue.
Ah oui, 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 d'accord. Okay. Ok, j'ai compris. Primoz Roglic, le Tour 2020.
Mais j'ai exactement le même.
En fait, j'ai vu le tien et j'ai fait le
tien. Ouais, bon, écoute.
Il a copié.
Ouais, bon, copie souvent les meilleurs. Jérémy. Quoi ?
Donc David Moncoutier 2002.
Oui, 2002. Il passait à ça de gagner le Tour de France.
Je vais vous donner juste les noms des gens qui le devancent.
Il est passé à un contrôle antidopage, enfin beaucoup de contrôles antidopage.
Je vais vous faire la liste des coureurs qui le devancent au classement général.
En même temps, je vais regarder un peu aussi.
Armstrong, Bellocchi, Rumsas, Botero, González de Galdeano, Mancebo, Leipheimer, Heras, Sastre, Basso, Bogert. Parmi eux, il y en a qui n'ont pas été déclassés de leur carrière, mais qui ont fait des équipes obscures. Mais la grande majorité ont été convaincus de dopage. Alors, on sait évidemment que David Moncoutier n'était pas un coureur qui voulait rouler devant, qui voulait jouer le classement général. Mais je pense, très sincèrement, on connaît un peu le garçon, on a la chance de le côtoyer à Eurosport, que c'était quelqu'un qui était, qui est toujours un grand passionné, qui a toujours voulu faire les choses proprement, dans les règles de l'art. Et que, à l'époque, au vu de la concurrence et de tous ceux qui touchaient, c'est presque miraculeux de réaliser un classement général aussi haut au milieu d'une armée de coureurs dopés. On ne peut pas savoir ce qui serait passé si tous les autres avaient été éliminés. Déjà, le peloton, à mon avis, il restait plus grand monde dans ce peloton-là. Mais tu te dis que là, peut-être, à la régulière, tu avais peut-être quelqu'un qui avait dans les jambes le tour.
Ouais, c'est vrai, et c'est largement possible, parce que vu la carrière qu'il a eue au milieu de tout ça, et même si c'est vrai que des coureurs disent « non, je ne me suis jamais dopé », et on a des doutes pour David Moncoutier, on a très peu de doutes, je vous laisse aller voir et lire son livre.
J'en ai même pas très peu, j'en ai pas. En revanche, sur la liste là, j'en ai un peu plus, alors bon, ça se trait, il n'a jamais
été
convaincu.
Tu sais qu'on aurait pu faire, presque tripler français cette année-là. Puisqu'on a David Moncoutier, derrière c'est Massimiliano Lelli, Taylor Hamilton, Richard Virenque, donc bon, on connaît. Stéphane Goubert, voilà, je pense que c'est le deuxième sur la liste.
Ah
oui. 7e, Unai Ossa, bon là c'est Ibanesto, on sait. Et 19e, Nicolas Vaugondi de la Française des Jeux. Eh, les 1, 2, 3. Moncoutier, Goubert, Vaugondi.
Non, mais tu vois, on en rigole, mais c'est quand même dommage de se dire, voilà, un garçon comme ça qui avait un talent immense. Alors qu'il n'a pas été anonyme, parce qu'il a gagné des étapes et qu'il a fait des super Vuelta, etc., mais qui n'a pas du tout eu la carrière qu'il aurait pu avoir physiquement si les autres avaient été corrects.
Mais non, mais je comprends tout à fait comment tu as fait ta réflexion. Ils sont beaucoup hein, d'ailleurs à le faire en faisant les classements. Beaucoup se sont amusés en faisant les classements avec David Moncoutier et toutes les personnes qui ont été prises pour deux pages devant. Et ça fait froid dans le dos. Voilà. Bref, Roglic Tour de
Katowski va à Carajal.
Roglic Tour de France 2020. Rémi, je vais être clair avec toi, je sais que tu me copies sur mon top 10. Au départ, il était plus haut parce que vraiment, c'est un truc.
Alors non, mais, moi jamais je l'aurais mis plus haut.
Mais je l'ai redescendu parce que tout est encore possible déjà. Non, il est pas non plus complètement largué, même si c'est plutôt compliqué vu les monstres en face. Mais en
surtout, cas, il change d'équipe, donc à voir s'ils sont compétitifs.
Mais voilà, pour moi, Roglic Tour de France 2020, pour moi, il ne le gagnera plus. Mais après, c'est mon pressentiment. Mais...
Pour moi aussi, et ça a même rien à voir avec le triplé qu'il aurait eu aujourd'hui s'il l'avait gagné, même si on ne va pas refaire le monde. S'il gagne en 2020, peut-être qu'il ne va pas sur le Giro cette année. C'est surtout que la manière en fait, dont il le perd. Et alors qu'il est le meilleur coureur de la meilleure équipe, qu'il domine ce Tour de France sans difficulté, qu'il reprend encore du temps à Pogacar la veille du contre-la-montre. Enfin, il y a vraiment tout ce truc-là. Et puis surtout, c'est la seule année où véritablement il a joué le général du Tour de France. Les années d'avant, c'était pas encore le grand Roglic et ça a fait des top 10, ça a gagné quelques étapes. Et les années d'après, il est toujours tombé. Donc la seule année où il aurait pu aller au bout d'un Tour de France avec le général en tête, il se foire sur la dernière marche et aujourd'hui on parlerait d'un mec qui a gagné le Tour, la Vuelta, potentiellement le Giro. Encore une fois, on va pas refaire l'histoire, mais il a un très beau palmarès et ça change pas énormément son aura, mais quand tu gagnes le Tour, c'est autre chose que si t'as gagné que Vuelta et Giro.
Non, je suis d'accord. Non, mais surtout que c'était l'unique, je pense que c'était son occasion et que tout était fait pour et que voilà, il y a eu un retournement de situation incroyable à Planche des Belles-Filles. On va pas refaire l'événement parce que tout le monde est encore assez fraîchement dans sa mémoire, mais quand même les trois grands tours pas pu avoir les trois grands tours vu que
trois grands tours avec un monument avec les jeux du chrono, ça aurait fait un palmarès digne de Froome qu'on adore.
Et je pense que sur l'ensemble de la carrière de Primoz, il aurait mérité un Tour de France dans ce... mais bon, on après l'histoire
mais il peut encore, moi je l'ai pas mis parce que je pense qu'il peut encore le faire, même si on va pas se fâcher, c'est pas le grand favori, mais c'est pas fini pour lui,
c'est pas terminé tout à fait, on verra en 2024 comment cela va se passer. En attendant, on entre sixième place, je crois. Sixième place.
Sixième.
Ouais, moi, c'est un grand tour aussi. C'est Simon Yates sur le Giro 2018. Ah,
très bien. Pour toi ?
C'est Joaquin Rodriguez, mais pour l'ensemble de sa carrière.
Ah, moi, je l'ai juste en cinquième aussi, mais il m'a copié de fou.
Ah, il a tout copié.
Moi, j'avais mis plus Giro 2012 et plus, entre parenthèses, les mondiaux. Mais bon,
c'est le point de départ, mais en fait...
Vu qu'il y a les deux... Pour moi, c'est pour ça qu'il est...
Heureusement pour lui qu'il y a deux monuments, qu'il y a deux tours de Lombardie, parce que sinon, c'est clair, c'est pas du tout à la hauteur.
Et pour moi, c'est Andy Schleck, du coup, je suis oublié de le mettre en 2011, mais après, pour l'entièreté de ses podiums du Tour de France, je vais expliquer pourquoi. Mais même s'il a un Tour de France au palmarès.
Ah bon.
Jérémy, vas-y, commence.
Oui, c'est Magnette. Le Giro 2018, il l'éclabousse de son talent pendant 2 semaines et demie et bah, il se prend un tir monumental dans le finestre qui permet à son compatriote Chris Froome de renverser la course. Il gagne 3 étapes, je crois.
Ouais, il est au-dessus de tout le monde pendant 2 semaines et demie.
Il est injouable et bah, il s'est écroulé d'un coup. Alors, pourquoi il n'est pas plus haut ? Parce qu'il a gagné une Vuelta depuis. Ça compte évidemment dans le palmarès.
Je comprends.
Mais je pense que lui aura des regrets à jamais. Et aujourd'hui, c'est pareil. On voit mal Simon Yates remporter un autre grand tour. C'est pas impossible, mais il va falloir un spot à la Bardet. Et il va falloir un spot sans Pogacar, sans tous les monstres actuels. Et ça va être de plus en plus dur.
Il avait vraiment beaucoup d'avance en plus pour le coup.
Il avait explosé toute la concurrence. Même Froome, à un moment donné, on ne le comptait même plus parmi les coureurs prétendants. Donc, là, il y a eu un vrai raté de la part de Simon Yates, qu'il a longtemps porté comme un fardeau. Puis, bon, la Vuelta rééquilibre quand même les choses.
Grosse il gagne la Vuelta cette année-là.
C'est vrai, grosse
capacité de réaction quand même.
Ouais.
Joaquim Rodriguez, donc pour toi Rémi, moi je l'ai en 5ème position, on va pouvoir en discuter. Toi tu l'as mis pour l'entièreté de sa carrière.
Moi je l'ai mis, évidemment le point de départ c'est Giro 2012.
Ouais.
Mais toute sa carrière, le nombre de Vuelta où il a gagné des étapes et eu le maillot rouge. Mais le problème c'est qu'il y avait Contador ou Valverde face à lui, et en fait toute sa carrière il l'a passé dans l'ombre de Contador et de Valverde. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a quitté la caisse d'épargne.
Ou Rui Costa.
Je ne remercierai jamais assez Alejandro pour le titre.
L'année 2012 de Rodriguez sur les grands tours, c'est un cauchemar. Entre le Giro et la Vuelta en fin de TD, c'est un cauchemar. Il aurait peut-être dû gagner les deux.
Ouais, il peut faire le doublé sur 2012.
Et un coureur comme ça, on parlait pour Roglic d'avoir un Tour de France, etc. Il mérite d'avoir il aurait mérité d'avoir un grand tour. Le Giro 2012, c'était parfait. Comment c'est possible de se faire battre par Ryder et Jedal pour 16 petites secondes lors de la dernière journée du chrono final? Il a le maillot rose sur le dos. Jusqu'au bout, il aurait été, pas mal chanceux, mais.
Ses capacités en chrono étaient bien trop faibles, malheureusement, et il l'a payé, mais à la manière d'un Valverde qui a heureusement sa Vuelta 2009. Si Valverde n'avait pas sa Vuelta 2009,
Les grands tours,
c'est pareil, son aura elle serait pas biaisée, parce que le mec a plus de 100 victoires, il a des monuments à l'appel et il a gagné sur tous les terrains, mais il lui manquerait ce grand tour. Rodriguez c'est pareil, à un degré encore plus fort, parce que Joaquim, à part ses deux tours de Lombardie, il y a quelques victoires par-ci par-là, mais il manque un gros, gros truc.
Valverde a eu ce step d'avoir un grand tour plus les mondiaux, ce que Rodriguez aurait pu avoir,
aurait
pour
dû
pas
avoir,
grand chose,
aurait mais...
dû avoir. Parce que les mondiaux de 2013 à Florence, on va pas rentrer dans les détails, mais Valverde qui prend pas la route, Rui Costa qui se barre et qui va taper Rodriguez, je pense que le soir au bus, ça devait être très tendu, mais encore une fois, Joaquim Rodriguez, on pensait tous qu'il était parti pour la victoire, et non, donc passer à côté de quelque chose, oui, Joaquim Rodriguez, pas de sa carrière, mais en tout cas de grands succès, de ses grands succès.
Complètement sauvé par les deux tours de Lombardie, quand tu as deux monuments au palmarès, t'es un grand coureur, que tu le veuilles ou non.
C'est pour ça qu'il est...
Mais 2012, c'est un massacre, vraiment, moi, c'est le Giro, oui. Mais la Vuelta... Il le perd sur le chrono, mais la Vuelta pour moi c'est encore pire, parce que c'est sur une étape de transition alors qu'il avait explosé tout le monde, qui grignotait seconde par seconde, que Contador n'arrivait pas, il attaquait de plus loin, ça marchait pas, et finalement il a suffi d'un jour sans, quoi, où il a pas vu venir le truc. pour NTD, il est avec Losada, le seul qui peut rouler.
Je regarde juste combien il avait d'avance. Et ouais, ça, il n'a pas trop d'avance, mais il avait 2 minutes sur Valverde à l'époque. Et
mais,
sur
c'est même pas, mais c'est même pas l'avance, c'est qu'en fait, les autres ne reprenaient rien. C'est qu'à chaque fois, il grappillait, il était mis en difficulté, mais il revenait, il chopait les bonifs. Et au bout d'un moment, ça dégoûtait les autres. Quoi. Et t'avançais, t'étais plus très loin de l'arrivée. Hein. T'étais à quoi ? À 3 jours de l'arrivée, quelque chose comme ça ?
Tu l'as, toi, dans le reste de ton top 10 ?
Non, je ne l'ai pas, mais il est totalement mérité.
Du coup, moi, Andy Schleck, je l'ai mis en 6e position parce que même si officiellement il a un Tour de France à son palmarès, pour moi, il n'en a pas sur le vélo. Donc, le mec n'a jamais été sur la plus haute marge du podium pour un grand tour dans sa carrière. Deuxième donc, du Giro, battu par un Di Luca qui pissait violet. Tour de France 2009, rien à dire, ça c'est clair face à Contador. 2010, il perd à cause d'un saut de chaîne, en gros. Et puis 2011, Cadel Evans donc à ce moment-là, alors qu'il aurait pu le gagner aussi. Donc voilà, Andy Schleck, pour moi, il est passé à côté de quelque chose, c'est de remporter son Tour de France. C'est quand même l'un des plus grands coureurs du 21e siècle de Grand Tour. Et voilà, il est passé pour moi à côté de quelque chose. Et j'ai noté le Tour de France de 2011 parce que c'est celui à la pédale sur le vélo où il s'est fait avoir. Alors qu'il. Voilà. Mentalement, il a fait mal.
Il le court mal ce Tour de France.
Parce que Frank Schleck, parce que beaucoup de choses. Voilà. Parce que beaucoup de choses, oui.
On parle de Purito, mais Andy Schleck, oui, il a un grand tour et oui, il a un monument, mais il aurait pu avoir tellement plus.
Oui.
Andy Schleck, c'est un gâchis. Ça fait partie des gâchis.
Je notais Andy Schleck avec le Tour de France, donc passer à côté de quelque chose. 5e position.
Ça va faire mal à beaucoup de monde. C'est le Tour des Flandres 2011 pour Sylvain Chavanel.
Il est plus haut.
Que j'ai en 4e, moi. Rémi, c'est quoi en 5e ?
Rigoberto Urán au JO 2012.
Oh là 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 là, c'est vrai ça. Ça, je l'ai pas, ça.
Alors,
vous voyez,
il y a beaucoup de monde qui vont être d'accord avec toi, mais certainement pas son banquier.
Je crois que non, pas du tout. Il n'est pas passé à côté de quelque chose. Non, c'est plutôt bon pour lui. Et moi, du coup, j'avais Rodriguez en 5e position et 4e, donc Sylvain Chavanel pour moi. On va pouvoir en discuter tous les deux, Jérémy. Pas trop longtemps.
Ça fait encore mal. Hein.
C'est-à-dire que quand tu revois les images et tu le revois se retourner pour voir où est Bonen.
C'est ce que j'ai mis. Je me suis mis à force de regarder derrière. Il a dû avoir un torticolis.
À un moment donné, voilà, il faut jouer ta chance. Puis dans le sprint, tu vois qu'il remonte et qu'il est enfermé. Et bon, Nick Noyens.
Voilà.
Il lui fallait un jour de gloire. C'est ça le vélo. Hein. Sur une journée, tu peux passer de quasi no-name, quasi, parce que Noyens c'était quand même un bon Flandrien, à un champion. Et Sylvain Chavanel, ce jour-là, aurait pu.
Et on parle de changer une carrière.
Ah bah là, non,
complètement. Là, un monument complètement. Pour Sylvain Chavanel, c'est franchement, même s'il a une très belle carrière.
Mais on ne se rend pas compte de l'écart.
Surtout à ce moment-là, on est vraiment.
Il n'y a que lui.
Et on se rend pas compte de l'écart entre une deuxième place et une victoire sur un podium, parce qu'un podium c'est très bien, on a eu Madouas, même à l'époque t'as eu Turgot, alors Turgot il était arrivé après le vainqueur, donc t'avais pas eu du tout la même sensation, mais Turgot aujourd'hui tu l'as presque oublié dans les livres. Chavanel tu l'oublies pas parce que t'es passé à côté.
Et parce que lui, il passait à côté aussi de son sprint. Il n'a pas été rattrapé au dernier moment. Non. C'est juste qu'il ne le fait même pas. Quoi. Il ne joue pas le jeu.
Voilà, c'est ça. C'est que pour moi, c'était le plus fort. Et ce n'était pas évident. Quand tu as Cancellara, en plus, tu n'es pas sûr d'être le plus fort. Voir que c'est Noyens qui gagne, ouais, ça le fout mal. Quoi.
Non, franchement, c'est pour ça aussi que il est très haut, Sylvain Chavanel. Il n'a pas, du coup, pas de monument dans sa carrière.
En fait, il a eu une super carrière, notamment sur le Tour, etc. Mais il a un bon palmarès à l'échelle française.
Ouais.
Aujourd'hui, si tu rajoutes le ronde, il est podium 21e siècle, ou pas loin, ou top 5, parce que maintenant, tu as la Philippe, tu as des marques, un monument, tu as Pinot, etc. Mais il serait dans le top 5.
Je suis d'accord. Autant, comme Vauclair Chavanel passait à côté de quelque chose, Rémi, donc, Rigoberto Urán, JO 2012.
Regarde à gauche et voilà, bizarre, attaque à droite.
J'ai regardé les images il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas pourquoi, mais alors là, c'est fantastique.
Mais c'est. En plus, c'est un truc qui m'avait marqué. Quand j'ai planché sur le top 10, j'y ai pensé et je l'ai mis dans mes. Je faisais ma liste, je l'ai mis et je suis allé voir l'image. C'est encore pire. C'est pour ça que je le mets 5 en fait. Parce que cette erreur, c'est se faire avoir comme ça. Enfin bon, après, c'est Vinokourov. Donc, il y a eu des arrangements.
Il est malin et intelligent.
Il y a eu plein d'arrangements avec Alexander. Mais non, mais c'était incroyable. Puis, Urán. C'est pas ridicule non plus, c'est un podium sur le Tour, c'est une victoire il a gagné sur les 3 grands tours aussi.
Deux podiums sur le Giro.
Mais une médaille d'or olympique, quand t'as un coureur par étape et qu'en plus, tu gagnes pas tant que ça, c'est quand même autre chose.
pourquoi je ne l'ai pas mis dans les 10, moi, personnellement, c'est parce que ce n'était pas son objectif, tu vois. C'était presque par hasard, enfin, se trouver avec Vinokourov ou Rund sur un circuit comme ça, avec de l'avance sur le peloton pour les JO, c'est un peu surprenant. Donc, du coup, si jamais c'était son unique objectif de carrière ou l'un de ses grands objectifs, j'aurais mis dans le top 10.
Au-delà de ça, parlons franchement. Il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas eu de jugement pour ça. Il y a eu des, avec Kolobnev, etc. Mais il y a de fortes présomptions.
Oui.
Si ça s'est passé comme ça, c'est son choix.
Oui.
De préférer une transaction financière à un titre olympique. Et puis, il a quand même la médaille d'argent. Donc finalement, tu vois, les Jeux Olympiques, c'est la seule épreuve où si t'es dans le top 3, t'as gagné.
Oui, c'est ça. C'est
que même s'il y a une différence, évidemment, entre le titre olympique, tes champions olympiques ou tes médailles olympiques, ça n'a rien à voir. Mais si ça s'est passé comme le faisceau d'indices nous fait penser que ça s'est passé, ben en fait, c'est comme ça. Il avait peut-être besoin de remplir un peu son compte en banque et c'est malheureux. Mais là, il peut s'en vouloir qu'à lui-même et je ne suis pas certain que ça soit un regret. Après, si ça s'est passé sportivement, il peut entrer dans le top 10. Mais comme on ne saura jamais...
Ah ça, peut-être un petit livre en fin de carrière pour Rigoberto Urán qui pour peut-être. L'instant... danse et n'écrit pas encore.
Et dans cette veine-là, moi, j'ai aussi pensé évidemment à Paulinho en 2004, qui perd contre Bettini.
Ouais, là, c'est pas
mais,
pareil.
Je pense qu'au sprint entre Paulinho et Bettini...
Ouais, je suis d'accord, mais...
Paulinho, en plus, ce jour-là, il est content de faire deux.
Non, alors, je suis entièrement d'accord, mais tu passes quand même pas loin, même si c'est Bettini en face. Je dis pas que t'as...
Ça a traumatisé tout un peuple au Portugal, j'ai l'impression.
Non, mais tu passes à côté de quelque chose...
content. Tu passes à côté, t'as quand même une
médaille d'argent. Oui, il y a une différence entre passer à côté de quelque chose de grand et avoir des regrets. Il y a pas beaucoup de regrets à perdre contre Bettini.
Il a fait quelque chose de grand quand même.
Il a fait quelque chose de grand, mais ça n'empêche que tu es à un sprint, certes face à Bettini, d'être champion olympique.
C'est un Dillier quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est mieux qu'un Dillier.
T'as une médaille quand même. T'as quand même la médaille, donc c'est quand même vrai. L'avantage des JO, c'est
le
deuxième.
Podium de Paris-Roubaix, ça n'a pas du tout le même impact que podium des Jeux. Le deuxième, c'est le premier des perdants à Roubaix. Sur les Jeux, c'est le quatrième.
Oui, c'est vrai. C'est bien dit, c'est beau ce que
tu dis. Non, c'est pas bien dit, c'est la vérité.
Oh non, mais c'est beau, c'est beau. Allez, on enchaîne avec la quatrième place. Quatrième place, donc j'ai...
C'est un coureur qui a fait deux de la course en question sur Milan-San Remo 2009, c'est Heinrich Hausler.
Heinrich Hausler.
Moi, bien prononcé, hein. Rémi... C'est mon petit cahier d'allemand.
Oui, je sais. C'est Chavanel sur le ronde.
Bah, moi aussi quatrième, donc on a parlé. Dire. Voilà, Chavanel, donc Jérémy, tu as toute la place pour cette quatrième place.
Ça va être très rapide, on est dans le final de Milan-San Remo en 2009.
Ah, oui,
il y a deux coureurs de Cervélo, il y a Hausler qui est censé emmener Uchoft. Uchoft fait la cassure, Hausler se retrouve devant, et là tu as Cavendish qui se dit, attends, ils ne sont pas en train de me berner les deux là, il faut que je lance mon sprint, et il le lance de trop loin en fait, il ne peut plus gagner. C'est trop tard, il envoie son sprint trop tard, et c'est le plus rapide, mais c'est trop tard, et en fait l'impensable va se produire. Il est tellement fort qu'il va réussir à le remonter, mais d'un cheveu, mais vraiment ça se joue à la photo finish. Et là, quand t'es dans la tête d'Hausler, tu vois la ligne se rapprocher, tu vois personne dans tes rétros, personne, et je pense qu'il s'est vu gagner, et il se faire sauter comme ça pour quelques centimètres ou quelques millimètres sur un monument que derrière tu n'as jamais eu l'occasion de regagner. Aujourd'hui, je pense qu'à l'heure des comptes, ça doit être terrible pour lui.
Ouais, je suis
d'accord. Cadeau de Uchoft en plus. Quand Uchoft te fait un cadeau, normalement, tu prends.
Mais un monument, comme Sylvain Chavanel, c'est un monument.
Ça change tout.
Ouais, ça,
mais la remontée de Cavendish est juste dingue. Quoi, parce que jamais de la vie, il doit gagner cette course.
J'ai vu encore les images il n'y a pas longtemps. C'est juste incroyable. Il y a un gap entre les deux. Et Cavendish, c'était
Cavendish Prime, de toute façon.
Malheureusement pour lui. On va pouvoir passer tranquillement au podium.
Oui.
Troisième position.
Steven Kruijswijk sur le Giro 2016.
Comme moi, je suis trop content, on est copains.
Alors, quand c'est moi, on est copains, quand c'est toi, tu le copies. Ouais. Il y a clairement des différences de traitement.
Parce que toi, je sais comment tu as travaillé, j'ai vu avant. Donc, je peux
surtout,
dire...
moi, j'avais fait les top 10 une semaine trop tôt.
Ouais. Rémi.
Steven K au Giro 2016.
Ah, on est tous des copains.
On a fait 3 top 10, c'est la première fois qu'on fait Grand Chelem.
C'est vrai, Steven Kruijswijk, donc Giro 2016. Alors, pour rappeler quand même que. Avant la 18e ou la 19e étape, je ne sais pas si c'était l'étape 18e. Je sais
plus, c'était dans la descente du col Agnel, en tout cas.
Et il a 3 minutes d'avance sur Chavez avant cette étape. 5 sur Nibali, à 3 jours de la fin. Voilà ce que j'ai noté.
Nibali est aux fraises.
À 3 jours de la fin. Et il perd ce Giro, malheureusement, à cause d'une chute.
Et alors, en plus, le scénario fait qu'à l'époque, c'est Bean
Beansport, qui est les droits du Giro, et que je me revois très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que tu montes le col Agnelle, qui est un des cols les plus difficiles, hein. C'est le col frontalier entre l'Italie et la France qui monte bien au-delà des 2000 mètres, un des cols les plus hauts, donc tu t'attends à ce qu'il y ait la bagarre dans l'ascension. Bon, tout le monde passe. Et là, Emmanuel Barthes qui commente, dit bon, bah, on va envoyer la pub hein, au début de la descente, c'est logique, tu as fait toute la montée, tu voulais pas que les abonnés ne manquent quoi que ce soit, et fait pub. Et là, tu as ce virage gauche où tu vois Kreuzbeck en rose qui va tout droit vers le mur de neige.
Un petit
là,
soleil, il fait un soleil.
Et ouais. il a la présence d'esprit, parce que ça jouait un millième, une fois que la pub est lancée, c'est trop tard, ça nous est arrivé plein de fois aussi, comme malheureusement sur Eurosport. Et là, il a la présence d'esprit tout de suite de voir que ça va mal se passer et de dire Non, pas de pub, pas de pub, pas de pub. Et là, tu le vois se manger le mur de neige, se faire un salto, et tu te dis, hop, 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 là, il peut laisser une clavicule. Finalement, il se relève et tu te dis, bah en fait, il va se relever, il va rentrer dans la descente, et ça, c'est juste une frayeur. Mais en fait, non, il a jamais pu s'en relever. Et cette année-là, je crois qu'il fait même pas podium. Il perd tellement de temps, il s'écroule.
Il fait 4.
Il laisse le maillot rose à Chavez ce jour-là, qui lui sera battu par Nibali. Mais en fait, d'une chute qui finalement une simple erreur de trajectoire anodine, bah, il perd le plus gros succès de sa carrière. Puis alors là, aujourd'hui, autant te dire, c'est terminé.
À 30 secondes du podium seulement, 1 minute 17 de Nibali. Alors, c'est au matin de la 19e étape, avant-dernière étape de montagne. Il avait 3 minutes d'avance sur Chavez et 5 sur Nibali, enfin quasiment 5.
En franchissant l'Agnel, c'est presque gagné, quoi.
Ouais, donc franchement, c'est. Et puis après, bon, derrière Nibali a renversé ce Giro. Mais c'est sûr que là, Steven, il est passé, parce que je le connais très bien, je peux l'appeler comme ça. Il est passé vraiment à côté de quelque chose. C'était son grand tour. Après, c'est vrai qu'il a un peu performé sur le Tour de France, mais bon, ça.
Oui, mais il fait un bon tour 2019. 2019, podium, mais bon, ouais. C'est pareil.
Mais c'est pas la même chose.
C'est pas du tout le. Non, c'est pas du tout le contexte.
Un Giro. Là, pour le coup, transformation de carrière, parce qu'un mec a un grand tour. Il rentre dans la catégorie des Tao Geoghegan. Non, je déconne, mais.
Non, mais c'est ça. Mais tu gagnes le Giro 2016, sur les années d'après, c'est pas la même chose. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tu gagnes un Giro à, je sais pas, il avait quoi, 29, 30 ans peut-être, 31
Je vais te dire, il est de.
Il a 29 ans. Ça veut dire que derrière, tu peux signer dans une équipe. Où tu as une équipe qui peut te donner les armes pour aller gagner un autre grand tour. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas juste tu gagnes le Giro et tu l'as sur ton palmarès, ce qui est déjà extraordinaire. C'est que derrière, tu peux capitaliser là-dessus. Et Kreuzweig, ça aurait été complètement le cas. Il était dans ses bonnes années.
Il fait quand même 5e du Tour de France en 2018, 4e de la Vuelta en 2018, et donc 3e sur le Tour de France 2019. Mais il a tourné beaucoup autour, on va
ouais,
dire.
Ouais, non, mais.
Notre ami Steven Kreuzweig, qui lui donc n'aura pas, comme Thylvain Chavanel le monument, n'aura pas de grand tour à son palmarès. Sauf énorme surprise à 36 ans, bientôt 37. Bref, et voilà donc pour cette troisième position, pour notre podium ensemble. Oui, on est ensemble, mais pour la deuxième, est-ce qu'on sera ensemble? Deuxième position.
Thibaut Pinot, Tour 2019.
Que j'ai un petit poil au-dessus, ça veut dire premier.
Oui, pareil.
Mon deuxième
Bonen, Paris-Roubaix 2016.
Et ouais, moi aussi, Bonen 2016. Et on n'a toujours pas la surprise, enfin le truc qu'on a oublié dedans. Bon, on va mettre en 0 bis. Avant de parler de Thibaut Pinot, on va parler tous les deux de Bonen. Et après, comme ça, on va parler ensemble de Thibaut Pinot. On va pleurer un petit peu, c'est super. Moi, pourquoi je l'ai mis en deuxième position aussi haut? 5 succès sur Roubaix. Il passait seul recordman devant De Vlaeminck. Et donc il s'est tapé au sprint par Mathieu Eman, deuxième position avec sa dernière carrière, parce qu'il prolonge après ensuite dernière année de carrière, il prolonge ensuite jusqu'en 2017 jusqu'à Paris-Roubaix, mais il n'arrivera pas. Mais pour moi, là, on est passé à côté de quelque chose de fantastique. Il est passé à côté de quelque chose d'être le seul recordman sur Roubaix, et je pense que lui maintenant, il doit avoir un petit peu dans le coin de sa tête ce truc. Ça doit tous les jours, au moment de se lever, là, après avoir bien dormi, il doit y penser. Je ne sais pas, Rémi, pour ça aussi que tu l'as mis. Mais...
Ouais, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis premier, parce que ça reste quand même un Bonen qui a.
Il a gagné
moult monuments. Ouais. Mais moi, je trouve que ce côté. Bon, déjà, le scénario où tu es battu par Ayman.
Ouais, ça c'est fou.
Et
Ayman qui était dans l'échappée aussi.
Qui était dans l'échappée. Et que tu pouvais être recordman. Enfin. Seul
tout
recordman
pour fin de carrière Roubaix, 2016 fin de
parfait.
Carrière
ouais, c'est tout le scénario qui fait que
Marc Stannard et Matt dans l'échappée, tu dis c'est bon, enfin dans le petit groupe devant, tu dis c'est bon avec Boissonnaguen d'ailleurs,
Mais
bon. Parlant de Van Mark, il fait partie de toute la tripotée avec les Fletcha et compagnie de Flandrien qui aurait pu aussi, hein, qu'on fait que des places d'honneur avec Leifost.
Leifost,
on aurait pu tous les mettre dans les mentions.
Leifost et Incapi, tous. Mais moi c'est juste toute la, enfin c'est tout le scénario autour qui fait que franchement on est passé, parce que c'est pas comme s'il avait essayé plusieurs fois, il avait jamais réussi. Là il était bien placé, idéalement placé pour aller remporter son cinquième Paris-Roubaix et entrer un peu plus dans l'histoire. Ça ne sera pas le cas.
Son précédent, c'était quelle année? Son dernier, du coup, c'est quelle année?
Alors, je vais te dire pour mon Tomek, c'est donc le 2012.
C'est ça, tu vois, il y a derrière, tu as trois années où.
Je pense que c'était la seule fois où il a réussi à revenir pour jouer la gagne. J'ai pas toute mémoire, mais
il me semble
qu'en
plus, c'est ça, c'est que les fois d'avant, les années d'avant, il n'est pas dans le coup, il me semble, pour gagner, il me semble.
2014, c'était Terpstra. 2015, c'est Degenkolb. Et 2013, ça va peut-être me revenir.
Pas contre Chalera, 2013,
Chalera, ouais.
Certainement.
Je peux regarder Paris-Roubaix, l'attaque, ce qu'il a fait sur Paris-Roubaix. Donc, alors, il fait deuxième en 2016, 13e du coup en 2017 pour sa dernière course de carrière. Oui. Il gagne en 2012 et après, il le fait pas en 2013 ni en 2015. Il fait 10e en 2014.
Ouais, c'est ça.
Mais 2014, c'est pas pareil parce qu'il il court pour l'équipe. Donc,
il est dans le groupe derrière.
Il est dans le groupe avec Wiggins et tout. Quand Terpstra attaque,
il attend.
Ça, c'est comme à la Philippe avec Jungels.
Donc voilà pour notre deuxième position. Et donc, deuxième position pour toi, Jérémy, c'est Thibaut Pinot qu'on a mis premier. Moi, pas que pour le Tour de France 2019. Pour
l'ensemble.
Pour les Giro aussi. Voilà.
Bah pourquoi il n'est pas premier? Déjà parce que le premier, il est phénoménal. mais surtout parce que, comme Bardet pour le Giro, on ne peut pas affirmer avec certitude que s'il n'avait pas abandonné, il aurait battu Bernal. Donc moi, c'est le seul point où je me dis, il y a des regrets. Je pense qu'il faisait un ou deux. À mon avis, il était bien plus fort que Geraint Thomas, qui faisait un ou deux et ça aurait déjà été énorme. Mais la frustration de ne pas savoir et d'avoir dû abandonner sans combattre, elle est gigantesque. Parce que même dans le Galibier, on peut appuyer en disant Bernal était plus fort dans le Galibier. C'est vrai, sauf que Pinot était déjà affaibli. Donc finalement, on peut se référer qu'à ce qu'on a vu dans les Pyrénées, où il a réussi à compenser quasiment l'intégralité de son débours cumulé dans la bordure d'Albi. Et c'était un Pinot stratosphérique. Alors, il n'a pas réussi à retrouver son niveau, certes, mais le niveau global a quand même explosé post-Covid. Il faut quand même être honnête. Ouais. Parce que 2019, pour moi, c'est le dernier Tour de France
ouvert,
Ouvert, j'allais dire humain, mais c'est un peu péjoratif, mais ouvert. Maintenant, même si tu retrouves quelqu'un qui a le même niveau que Pinot en 2019, il va se battre pour le top 5.
Ouais.
Donc, il y avait un spot. Ouais. Il y avait un spot. Il a malheureusement, les choses en ont été autrement. Alors, est-ce que lui en souffre? Non. Je pense que ça, c'est aussi un aspect qu'il faut prendre en compte, que lui n'ait pas le sentiment d'être passé à côté de quelque chose de grand, en tout cas de profitable pour lui. Il répète très souvent en interview qu'il n'avait pas envie de gagner le Tour de France. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde est content et ça fait un beau deuxième. Finalement, le symbole est beau.
En changement de carrière, un Français qui gagne en 2019, donc sur le Tour de France, donc le dernier c'est 85 et tout. Là, c'est un changement de dimension. Même si c'est un énorme elle est gigantissime.
Il faut se rendre compte de la hype qu'il y a eu ces deux semaines-là, parce qu'en plus, tu avais Alaphilippe qui était maillot jaune, donc il y avait double espoir, même si on savait tous ici autour de la table qu'Alaphilippe n'allait pas gagner le Tour de France. Mais quand tu étais sur les sites de Paris, c'était les deux moins cotés. Et ça te donne les poils, quoi. Tu te dis, ok, donc là, même les bookmakers sont d'accord avec tous les observateurs. On va le faire, quoi. On va y arriver.
Et puis, moi, si je l'ai mis aussi haut et un peu plus bas, par exemple, pour Bonan et tout, c'est parce que il y a aussi autour du Giro où deux fois il se bat pour le podium et 2017 c'est avec un chrono, 2018 c'est parce qu'il tombe malade alors qu'il est sur le podium lors de la dernière étape de montagne.
Après, donc, un podium, en plus, c'est...
Oui, je sais, c'est mais bon, même pour le Giro, il était venu pour le classement général, il n'a jamais réussi à monter sur la boîte, alors qu'il était un amoureux du Giro. Donc c'est ça, en fait. Il est passé à côté de plusieurs choses, et c'est pour ça que je l'ai mis en plus. C'est pas que parce qu'on est français, parce que c'est Thibaut Pinot, c'est parce qu'aussi, il y a d'autres choses qui sont passées sur les dernières années, même si je suppose qu'il ne regrette pas toute sa carrière. Et que,
mais nous, on regrette. On y a tous cru.
Non, mais le changement, Rémi, on est d'accord, le changement de s'il gagne le Tour de France, c'est celui qui gagne après Hinault et tout.
Le premier français qui gagne le Tour de France, on en parle pendant 20 ans.
Ah ouais.
Surtout que c'était le
plus populaire, peut-être à égalité avec Alaphilippe, mais Pinot, on a vu hein, ce que ça donnait en termes de popularité.
C'était parfait. Le scénario, il était impeccable.
Voilà pourquoi il est en première position pour moi. On va passer donc à
numéro 1 de Jérémy.
Top 1. Jérémy, vu que t'es tout seul.
Alors, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le connaître. C'est Tom Leeser, un Néerlandais qui a failli devenir champion du monde en 2016 à Doha.
Alors, moi, je le connais parce que j'ai été voir après, parce que j'étais me souvenir, parce que je t'avoue que c'est pas le plus passionnant des mondiaux.
Ou alors, il fallait regarder très en amont. Ouais. Parce que les bordures, etc., c'était sympa. Ouais. Mais à partir de 80 bandes, c'était stérile.
Et tu en as que dans le groupe, il n'y avait que William Bonnet, pour nous, Français.
Ça a été vite.
On est complètement passé à côté de ce mondial.
ça, c'est sûr.
On était venu avec Bouhanni et Desmar au sommet. Hein.
Ouais, bien sûr.
C'est l'année de San Remo.
Donc voilà, alors explique-nous ce qui s'est passé pour se rappeler pour les gens parce qu'ils n'ont peut-être pas vu.
Il s'est passé qu'un no-name absolu, parce que Tom Leeser, c'est un no-name absolu, enfin, c'est le fidèle coéquipier, a fait le coup du kilomètre, en tout cas l'a tenté, et un moment de flottement lui a permis de prendre une petite centaine de mètres, et ben là, de mémoire, je crois que c'est l'Italie qui embraye.
Ouais.
Alors qu'il y a Sagan qui va gagner, il y a Cavendish, il y a Bonnen dans ce groupe. Enfin, il y a quand même des très très gros sprinteurs. Je crois qu'il y a même déjà les deux Norvégiens, Christophe et Boissonhagen. Donc c'est l'Italie qui sauve la mise. Mais il part et l'impression visuelle en direct, moi, me fait penser qu'il va être champion du monde. Et là, pourquoi pour moi c'est plus fort que Pinot ? Parce que Pinot, au départ du Tour de France 2019, il fait partie des favoris. Donc tu t'attends possiblement à le voir soit sur le podium, soit gagné, soit dans le top 5. Ça le ferait complètement changer de dimension, certes, mais il y a une certaine forme de logique. Là, Tom Leeser,
imagine avec ce maillot de champion du monde.
Serait passé d'inconnu total à champion du monde. On serait passé vraiment... Alors, ça c'est un petit peu produit, mais toute proportion gardée avec Pedersen.
Oui. Parce que Pedersen quand même Kwiatkowski, quand il gagne, c'est avant
moins
qu'il...
déjà quand même. Kwiatkowski, il y avait quand même des signes annonciateurs. 2014, il est déjà fort. Pedersen, il a déjà fait deux du ronde, donc tu sais quand même que... Mais taper Trentino Sprint, personne ne l'imaginait. Mmh. Mais là, lui, il n'avait pas du tout ces références-là. C'est ni un sprinter, ni un grimpeur, ni un poacher. C'est rien, c'est un équipier.
Et ce jour-là... s'il y avait Terpstra avec lui, je veux dire, il n'y avait pas
de sprinter. Ouais, enfin, il n'y a pas de sprinter, ouais. Donc il a la possibilité de le faire. Et il a vraiment... Alors bon, il est repris bien avant la ligne, il doit être repris à une centaine de mètres ou à 200 mètres, je ne sais pas. Mais il y a un moment donné où tu te dis, il y a un monde où c'est lui qui a le maillot et arc-en-ciel, quoi. Et là, je pense. Alors lui, il a tout donné, il a pas de regrets. Donc je pense que vraiment, il en fait pas des cauchemars la nuit. Mais il est pareil, il a dû se voir gagner. Il a dû se dire, et si je le faisais, quoi.
Alors palmarès donc de mon ami Tom Leeser. Donc Tour de Langkawi, une étape du Tour de Langkawi en 2013. Quand même. Classement général du triptyque des monts et châteaux.
Ah, 2007. Le fameux.
Donc c'est plutôt pas mal, non.
Mais ça c'est. Il est devenu conseiller TripAdvisor.
Mais en tout cas, il finit 17e, figure-toi, de ces mondiaux.
Oui, bah, il doit finir dernier du groupe.
Attends,
de tête.
Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'il y avait Viviani qui était dans cette bordure, il finit à 14 secondes, il y a un problème mécanique sur la fin, parce que c'est l'Italie en Biombrei, il y avait Giacomo Nizzolo.
Non, mais on a joué la carte Nizzolo.
Garnieri,
on a joué la carte Nizzolo. Bah, il y a un moment donné, en fait, t'as un mec qui est en train de se faire la malle, t'es dans le dernier kilomètre, t'as deux sprinters, t'es obligé d'en sacrifier un.
Et il y a du coup dans le groupe,
Mathieu Heyman était là,
Christophe Boissonhagen qui font 6 et 7, je pense qu'il doit être content d'avoir fait 6 et 7.
Bravo. William Bonnet fait 8, hein. il a fait son taf.
Ah, je croyais qu'il était 9, tu vois, il fait 8.
Et il fait son taf, hein, William.
Donc voilà, Peter Sagan qui remporte ses mondiaux tranquillement. Je vous laisse aller voir les images, c'est plutôt sympa.
On ne parlera pas de Bergen 2017 hein, par contre.
Non plus, jamais. Alors, avant de passer aux mentions, le 0 bis, le 1 bis, le 0.
Il y a quand même un coureur qu'on n'a pas cité.
Marc Padoune.
Non. Qui a fait plusieurs fois podium sur Milan-San Remo et qui a gagné tous les autres monuments et qui n'a jamais réussi à rentrer dans le cercle. Et ils ne sont pas nombreux des vainqueurs des 5 monuments.
Gilbert.
C'est Philippe Gilbert.
Ah ouais.
Philippe
Gilbert, oui.
Philippe Gilbert, je l'ai oublié, mais il a la place...
C'est vrai.
Sur le podium, hein. Là, c'est même plus dans le top 10. Il y a la place. Moi, je le mets peut-être même devant Kreuzweg, tu vois.
Oui, parce que c'est autre chose.
Parce que la performance est
dans un cadre.
Là, tu rentres dans le Gotha, quoi. Ouais. Tu rentres dans le Panthéon des Panthéons. Et Philippe Gilbert, il a plusieurs places d'honneur. Il a dû faire deux,
Il a fait troisième en 2008, mais 4 secondes derrière Cancellara. Et il a fait troisième en 2011. Derrière, au sprint, derrière Mathieu Gosse et Cancellara. Tu vois, c'est juste en 2011 c'était, où il est pour la gagne.
Alors là, c'est pareil, c'est toujours dans le même état d'esprit que tout à l'heure. C'est-à-dire que Milan-San Remo, ses podiums, c'est bien en amont de sa victoire sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Donc, en fait, quand il fait podium cette année-là, il n'est pas dans l'état d'esprit de se dire « mince, c'est celui qui me manque ».
Ouais, mais sur ces dernières années…
Mais entre 2019 et disons 2021, parce que 2022 déjà, c'est vrai qu'il aurait pu, mais eux, il est tombé sur les monstres. Hein. Quand tu regardes le palmarès de ceux qui ont gagné San Remo, depuis, ben, il y a Alaphilippe. Et il était son coéquipier et donc ça a joué la carte à Alaphilippe et lui était ravi que ce soit lui qui gagne. Après, c'est Van Aert, après c'est Stuyven, il y a Mohorinch, il y a Van Der Poel. Donc, je ne vois pas où il aurait pu le gagner. Quoi.
Voilà, donc Philippe Gilbert qui est donc dans ce classement en 1 bis, 0 bis, comme
ouais,
vous voulez.
Bah, il est dans mon podium d'honneur. Quoi, parce okay. que je l'ai oublié, j'avoue, je ne l'ai pas pensé. Mais quand tu as parlé de Sagan sur San Remo, je me suis dit, oh, j'espère qu'il y en a un qui a mis Gilbert.
Et d'ailleurs, dans les mentions, parce que j'en ai quelques-uns. Alors, j'ai noté Vincenzo Nibali sur Liège-Bastogne-Liège 2012.
Ouais, derrière Iglinski.
De gagner Liège-Bastogne-Liège, ouais. Voilà. Donc, il passe à côté de quelque chose. Bon, c'est la seule fois où il avait l'occasion. Donc, j'ai dit Froome pour le 5e Tour de France.
Après, Nibali,
entre 2012,
est-ce qu'il aurait vraiment changé quelque
non.
chose
c'est pour ça qu'il est juste dans les mentions. Mais ouais. Gagner une Ardennaise, il ne l'a jamais fait. Donc,
non, mais il a quand même trois monuments, dont deux différents. Oui. Il a les trois grands tours. Il a plus rien prouvé quoi.
Mais alors je pense que c'est mon petit préféré dans les mentions, c'est Brian Cocard sur le Tour de France battu par
Kittos. À Limoges.
Ah ouais, ça c'est là.
On en a reparlé cette année.
Champs, si vous voulez. Enfin bref.
Non, bah surtout Limoges quand il est battu à la photo finish où honnêtement là c'est pareil. Hein,
il gagnera il gagnera jamais une étape du Tour de France sauf énorme surprise évidemment. Bah pas au sprint en tout cas.
Jamais dire jamais.
Ouais.
Jamais dire jamais.
C'est pour ça qu'il est dans les mentions. Il fait partie des. Des cours, j'ai regardé un petit peu pour savoir si je le mettais et tout, mais non.
Déjà, il a gagné au World Tour, donc il y a déjà une épine de moins dans le pied.
Voilà donc pour ce top 10 qui se termine, et cette année aussi, qui est 2023, qui se termine. J'espère que vous avez apprécié nous écouter, nous regarder cette année, discuter avec nous sur Twitch, et puis aussi dans les commentaires, notamment sur YouTube. Jérémy, Rémi, troisième saison, toujours fatigué, tout va bien ?
Non, pas fatigué, des fois on a un peu froid, c'est pour ça qu'on se couvre, et c'est tout.
Très bien. En tout cas, une très belle année. On a fait une très belle année.
Ouais, on va faire une très belle fin d'hiver avec Anthony, avec Steve et avec Gilo. Voilà, il y a du cyclocross. Dès le premier de l'an 2024, hop, on s'y remet. Grand Prix Sven-Nys à Bâle.
Oui.
Il n'y a jamais d'interruption. Là, jusqu'à Tabor, tout droit.
C'est tout droit avec, des pas de Pidcock, je ne sais pas, des trucs comme ça. On attend plein de trucs.
Pidcock et Van Aert, a priori, ne seront pas au Mondiaux, mais bon, il y a des affrontements réguliers.
Bon, au moins tu nous as hypé avec ton cyclocross jusqu'à
jusqu'à Tabor. Après, il y aura encore quelques cyclocross. Ouais, disons qu'après les mondiaux, ça a moins de saveur. Quoi.
Ouais,
c'est comme les matchs après la finale de la Ligue des Champions. Bon, il y a encore quelques matchs de championnat où tout est joué. Regardes, on peut s'en regarder. Quoi.
C'est un peu comme les critériums de Saitama.
Non,
et
quand
tout.
Même pas.
Voilà, donc je vous dis une nouvelle fois, merci de nous avoir suivis toute l'année. J'espère que vous avez aimé ces top 10. On prépare aussi peut-être une surprise à la rentrée. Bon, si vous nous écoutez dans la foulée. Sinon, continuez à nous écouter. Et à très vite. Ciao.
Ciao, ciao. Salut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.